Vous écoutez, on lit pour vous.
Finalement, il faudrait bien moins de 10 000 pas par jour pour rester en bonne santé, selon les chercheurs. Un texte d'Oriane Polge, paru le 18 décembre 2025 dans Science et Vie. Les chercheurs remettent en question le mythe des 10 000 pas quotidiens, proposant un objectif plus réaliste et scientifiquement fondé. Ce nouveau repère, adapté aux divers profils, pourrait transformer notre approche de l'activité physique. Longtemps perçu comme un objectif universel, le cap des 10 000 pas s'est imposé dans les habitudes sans véritable caution scientifique. En parallèle, les avancées récentes en épidémiologie ont permis d'analyser finement les effets de la marche sur la santé. En comparant des centaines de milliers de parcours de vie, les chercheurs ont identifié un point de bascule inattendu. Le seuil des 7 000 pas par jour se distingue désormais comme un repère fiable associé à une réduction nette des risques pour plusieurs maladies chroniques. D'où vient l'idée que 10 000 pas sont nécessaires? L'origine du fameux seuil de 10 000 pas ne vient ni de l'OMS ni d'une quelconque autorité médicale. Ce chiffre s'est popularisé au Japon dans les années 1960 lors d'une campagne publicitaire pour un podomètre baptisé Manpokei, littéralement « compteur de 10 000 pas ». Le succès de l'appareil a contribué à ancrer ce repère dans les esprits. Pendant des décennies, cette valeur est restée une référence implicite, reprise dans les outils de santé connectés sans jamais être validée scientifiquement. Comme l'a rappelé la chercheuse Melody Ding dans les colonnes de la BBC, cette cible a surtout été sortie de son contexte et s'est imposée, faute de mieux. Pourtant, ni les guides de l'OMS ni ceux des autorités nationales de santé ne fondent leurs recommandations d'activité physique sur le nombre de pas. Ce que 7 000 pas par jour change concrètement pour la santé. Une vaste méta-analyse publiée dans The Lancet Public Health vient d'éclaircir le lien entre nombre de pas et santé. L'étude compile les données de 57 recherches portant sur plus de 200 000 adultes, toutes centrées sur le lien entre activité ambulatoire et divers indicateurs médicaux. Les chercheurs ont identifié un effet de seuil marqué autour de 7 000 pas par jour. À partir de cette valeur, les bénéfices sur la santé sont tangibles, voire spectaculaires. Le risque de décès, toutes causes confondues, diminue de 47 %, celui de maladies cardiovasculaires chute de 25 % et celui de démence de 38 %. L'incidence du diabète de type 2, des symptômes dépressifs et même des chutes chez les personnes âgées recule aussi de manière significative. Si les gains supplémentaires au-delà de 7 000 pas existent pour certaines affections, comme les pathologies cardiaques, la courbe tend à s'aplatir. Autrement dit, atteindre ce seuil constitue déjà une avancée majeure pour la prévention. Vers de nouvelles recommandations adaptées à chacun. Plutôt que d'imposer une norme uniforme, les chercheurs appellent à une vision plus réaliste et inclusive. Le nombre de pas, facilement mesurable au quotidien, permet de donner un repère accessible, même aux personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques. Pour nombre d'entre elles, viser 10 000 pas constitue une montagne décourageante. En revanche, 7 000 pas par jour peuvent être atteints sans programme sportif, simplement en intégrant davantage de mouvement dans les activités courantes. Des spécialistes comme le Dr Daniel Bailey insiste sur l'importance de rendre ces objectifs atteignables. Il rappelle que pour beaucoup, marcher reste une activité à faible impact, souvent compatible avec une mobilité réduite. Selon lui, encourager des seuils progressifs, à partir de 4 000 pas, permettrait d'engager une grande partie de la population sur la voie d'une meilleure santé sans provoquer de rejet. La marche, activité élémentaire et universelle, se révèle ainsi être une réponse pragmatique et puissante aux enjeux de santé publique. Un simple seuil, à la portée du plus grand nombre, pourrait devenir l'outil de prévention le plus efficace de notre époque. C'était « Finalement, il faudrait bien moins de 10 000 pas par jour pour rester en bonne santé, selon les chercheurs. Un texte d'Oriane Polge, paru le 18 décembre 2025 dans Science et Vie.
Comment identifier les produits qui ont subi une décaliflation ? Un texte de Véronique Morin, publié le 13 janvier 2026 dans le Journal de Québec. Votre aliment préféré ne goûte plus aussi bon ? Il a peut-être été décaliflationné par son fabricant, c'est-à-dire que sa recette originale a été modifiée pour diminuer son coût de production. Comment faire pour savoir si la recette des aliments transformés que vous avez l'habitude d'acheter en épicerie a été altérée ou non ? Aucun pays dans le monde ne réglemente à ce sujet, fait remarquer le professeur invité à l'Université McGill, Sylvain Charlebois, joint par téléphone par l'agence QMI mardi. C'est beaucoup trop compliqué. Et pour Santé Canada, l'important, c'est qu'il n'y ait pas d'allergène d'ajouté, ajoute-t-il. La seule façon de savoir serait donc de lire l'étiquette et de connaître par cœur les ingrédients de la recette originale d'un produit. Ça prend une bonne mémoire, ironise-t-il. Ce phénomène, qui s'apparente à la réduflation, le fait de diminuer les portions tout en maintenant les prix, ne date pas d'hier. Ça fait 30-40 ans que les compagnies agroalimentaires ont recours à ce genre de stratégie pour réduire leurs coûts, souligne le professeur Charlebois. À l'émission À vos affaires, lundi, il rapportait le cas des tranches de fromage Singles de la marque américaine Kraft comme un exemple de décaliflation. Les tranches de fromage ne goûtent plus comme avant parce que le gras a été remplacé par de l'eau, ce qui en change non seulement le goût, mais aussi la texture. Les consommateurs s'en sont rendus compte et c'est grâce aux réseaux sociaux que les gens ont appris que le fameux fromage avait changé de recette, raconte-t-il. De son côté, l'organisme Équiterre dénonce ce phénomène sur une page web explicative pour éveiller les consommateurs. La décaliflation, skimflation, est une pratique commerciale qui consiste à réduire la qualité et la disponibilité des services et des produits offerts sans en réduire le prix, peut-on lire. On y déplore que ces changements se fassent souvent à l'insu des consommateurs et des consommatrices. Selon Sylvain Charlebois, les gens ne sont pas dupes. Les consommateurs s'en aperçoivent et dès qu'ils vont sur les réseaux sociaux, les compagnies réagissent, estime-t-il. C'est la pire chose pour une compagnie quand les gens s'expriment sur les réseaux sociaux et les interpellent directement. D'ailleurs, c'est ce qu'il conseille de faire à tous ceux qui remarquent un changement de goût qui pourrait s'apparenter à de la décaliflation de leurs produits alimentaires. Allez sur les réseaux sociaux pour le dénoncer. C'est de loin la façon la plus efficace de faire bouger les compagnies agroalimentaires pour revenir à leur ancienne recette, conclut-il. C'était « Comment identifier les produits qui ont subi une décaliflation ?» un texte de Véronique Morin, publié le 13 janvier 2026 dans le Journal de Québec.
Comment garder le moral durant la saison froide? Un texte de Florence Dancause, paru le 22 janvier 2026 dans La Presse. La bonne humeur, la motivation et l'hiver peuvent-ils cohabiter? C'est ce que croit la psychologue Marie-Pierre Lavoie. Dans son nouveau livre, Le cerveau en hiver, elle donne ses conseils pour prévenir et soigner la déprime saisonnière qui touche de nombreux Québécois. Entrevue. Pourquoi notre cerveau est-il mis à rude épreuve l'hiver? C'est surtout le manque de lumière qui affecte notre cerveau. On a moins de luminosité le matin et le soir, et cela joue sur notre horloge biologique qui synchronise, par exemple, notre température corporelle, notre cycle veille-sommeil et notre appétit. La sérotonine, un neurotransmetteur qui affecte notre humeur et notre motivation, est aussi moins produite. Comment savoir si nous sommes touchés par la déprime saisonnière? Il y a 20% de la population québécoise qui est touchée de manière modérée par la déprime saisonnière. C'est 3% de la population qui a des symptômes plus graves. Les symptômes sont similaires à ceux d'une dépression standard. Moins de motivation, plus de fatigue, une envie de s'isoler et, évidemment, l'humeur qui est plus déprimée. Il y a des symptômes atypiques, comme l'envie de manger plus de glucides, de féculents et le besoin de dormir. Une fois que les beaux jours reviennent au printemps, les symptômes disparaissent un peu comme par magie. Dans les traitements possibles, vous parlez largement et en termes positifs de la luminothérapie. Vous soulignez même qu'elle est aussi efficace que les antidépresseurs selon une méta-analyse de 2005. La luminothérapie, c'est le traitement de première ligne. C'est moins dispendieux que des antidépresseurs et ça a aussi moins d'effets secondaires. L'idée, c'est de s'exposer à une lumière très intense le matin avec un appareil de luminothérapie durant 30 minutes tous les jours. Les gens vont voir la différence après une à deux semaines. Ils vont se sentir vraiment plus énergisés et avoir moins d'idées négatives. Même si nous ne souffrons pas de déprime hivernale, nous pouvons quand même avoir une baisse de motivation et d'énergie. Comment y faire face? Au départ, c'est de normaliser le fait de se sentir plus fatigué. Ce serait aussi une bonne chose d'essayer de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau et dans notre corps en hiver. Ça permet de mieux s'ajuster. Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils vont attendre d'être motivés avant d'entreprendre une activité. Mais de mettre ses bottes, son manteau et de partir marcher une fois qu'on est là, ça nous fait du bien. Évidemment, ce ne sont pas toutes les stratégies exposées dans le livre qui vont aider, il faut trouver celles qui fonctionnent pour nous. Vous prônez de faire de l'activité physique en nature. En quoi est-ce particulièrement bénéfique? Les gens sont au courant que l'activité physique aide et que c'est un antidépresseur naturel. S'exposer à la nature, c'est un peu moins connu. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui démontrent l'effet de la nature au niveau, entre autres, du cortisol, une hormone du stress. Les ruminations négatives vont aussi diminuer en nature. Donc, le fait d'être à l'extérieur, de respirer l'air frais et de s'exposer à la lumière, c'est très bénéfique. On a souvent tendance à diminuer nos interactions sociales en hiver. Vous soulignez qu'on devrait plutôt les maintenir. Oui, c'est vraiment un filet de sécurité et un facteur de protection sur la santé mentale. En hiver, c'est parfois moins instinctif de se rassembler. On va moins sortir. En été, c'est facile de faire un barbecue avec des amis, par exemple. Mais c'est de planifier un peu d'avance et de penser à des activités différentes. Pour ceux qui aiment le plein air, ça peut être de faire une marche ou de patiner. Ça peut aussi être de faire une soirée de jeux de société. On se fait souvent un plaisir à critiquer l'hiver et ses nombreux désagréments. Faudrait-il éviter ces ruminations? Notre discours interne est super important, parce que cela a un impact sur comment on va vivre notre hiver. Ce n'est pas non plus d'avoir des lunettes toutes roses. L'idée, c'est de trouver des façons de s'adapter à une saison qui est plus exigeante. On peut porter attention justement à certains beaux moments de l'hiver et on peut embrasser son côté cocooning. On devrait donc accepter de ralentir en hiver? De s'imposer le même rythme en été qu'en hiver, déjà, ce n'est pas réaliste. On essaie de se donner le droit à des pauses et à des moments pour soi. C'était « Comment garder le moral durant la saison froide », un texte de Florence Dancause, paru le 22 janvier 2026 dans La Presse.
Qu'en fait la SAC? Des bouteilles des États-Unis? Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 17 janvier 2026 dans La Presse. En mars 2025, la Société des alcools du Québec a retiré tous les produits américains de ses rayons à la demande du gouvernement québécois qui répliquait à l'imposition de droits de douane par l'administration Trump. Comme il n'y avait pas de remise en vente imminente, la SAC a annoncé, en août 2025, qu'elle allait se départir des produits plus sensibles ou qui affichaient une date de péremption. Des organismes de partout au Québec ont pu bénéficier de cette situation exceptionnelle. Au total, 3763 caisses d'alcool américains ont été distribuées à 183 organismes, apprend-on dans une liste obtenue par la presse à la suite d'une demande d'accès à l'information. Dans sa réponse, l'avocat de la Société d'État, Maître Daniel Colette, écrit toutefois que la SAC n'a pas de document final qui fournit un portrait complet du nom exact des produits remis et leur quantité. On ne peut donc pas estimer la valeur totale des dons. Le document permet toutefois de voir que de nombreuses fondations, plusieurs liées à la santé ou à l'insécurité alimentaire, ont pu récupérer des produits dont une partie a assurément servi pour des événements ou des collectes de fonds. Beaucoup de centres communautaires ont fait des demandes et reçu de l'alcool, ainsi que des événements et organismes culturels comme le Carnaval de Québec, le Musée d'art contemporain de Montréal, l'OSM, le TNM et certains petits événements qui se trouvent en régions plus éloignées. Quelques OBNL ont eu la main plus heureuse. Les fondations de l'hôpital Charlemagne et de l'hôpital du Sacré-Cœur ont reçu respectivement 134 caisses et 77 caisses. Produits à durée de vie limitée. La SAC ne révèle pas précisément qui a reçu quoi. Maître Colette précise toutefois dans sa réponse que les vignées et les produits à base de crème font partie des produits délestés. Leur durée de vie est moins longue qu'un pinot noir de la vallée de Sonoma, par exemple. Des bouteilles de vin américain ont été offertes, mais ce sont des vins qui ne sont pas conçus pour une garde prolongée et dont la conservation peut notamment altérer le goût, rendant ces produits non commercialisables, précise l'avocat. Le Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu a reçu 67 caisses. Il y avait du saké, de la tequila et du vin, détaille le directeur général de l'organisme, Ando Andrianadi. Une partie de l'alcool a été servie à la soirée de reconnaissance des bénévoles le mois dernier. C'était un très beau cadeau de Noël, dit le directeur, qui ne s'attendait pas à recevoir cette quantité. Les bénévoles ont donc pu trinquer au Syrah et au Chardonnay californien. Le groupe a reçu des bouteilles du très populaire vin Cupcake. Il en reste amplement pour les événements à venir cette année. En plus des fondations et groupes communautaires, on ne sera pas surpris de trouver parmi les bénéficiaires des centres de formation en sommellerie et des écoles hôtelières comme l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, ITHQ, qui a récupéré 22 caisses d'alcool. La SAC précise qu'aucun particulier n'a reçu des bouteilles dans le cadre de cette opération et qu'aucun produit n'a été vendu. Cette initiative a pris fin le 31 décembre 2025 et aucune autre n'est en cours pour le délestage d'alcool américain. C'était « Qu'a fait la SAC des bouteilles des États-Unis ?» Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 17 janvier 2026 dans La Presse.
Bad Bonnet contre révolutionnaire? En sous-titre, il faudra plus qu'un coup d'éclat d'une vedette internationale pour chasser la violente méchanceté de Trump. Un texte de John R. MacArthur, publié dans Le Devoir du 2 mars 2026. Je cherche rarement des aperçus politiques à la télévision au grand public et je ne m'attends pas à en trouver pendant la messe nationale appelée Super Bowl. Je ne dis pas qu'il n'y a aucune sagesse à tirer de cette pure incarnation de la culture américaine. Un sociologue ou un théologien pourrait se demander si ce combat d'athlètes penche plus vers un monde panthéiste, semblable à celui de la Rome antique et à son appréciation du spectacle, ou vers les valeurs chrétiennes et protestantes de nos pères fondateurs puritains, cherchant à construire une Amérique qui nous servirait de phare exemplaire et juste, telle la fameuse « Cité sur une colline » de John Winthrop. Le sport aux États-Unis est normalement apolitique. Il est quasi interdit d'y effectuer des gestes de protestation, comme l'ont fait le sprinter Tommy Smith aux Jeux olympiques de 1968 et le joueur professionnel de football Colin Kaepernick en 2016. Les buts du Super Bowl sont, dans l'ordre, le match, les publicités vendues à 8 millions de dollars américains la demi-minute et la performance musicale de la mi-temps. Et voilà que cette année, anniversaire LX dans notre calendrier football panthéiste, j'ai exceptionnellement décidé d'y prendre part avec mes concitoyens. Il fallait absolument, en tant que journaliste, que je regarde le rappeur Bad Bunny durant la mi-temps. Pourquoi le prendre au sérieux? Parce qu'il pouvait se prononcer sur la crise trumpienne qui contrôle de nos jours la République. J'avoue sans honte que j'espérais qu'une vedette internationale de la chanson portoricaine, jusqu'alors peu connue pour la finesse de ses discours ou de ses prises de position, à part sa critique des expulsions menées par Ice au Grammy, sacherait la violente méchanceté de Trump d'un coup, et que, ce faisant, il déclencherait une révolte de citoyens latino-américains capables de repousser le président jusqu'aux profondeurs de celui qu'il a lui-même rebaptisé le Golfe d'Amérique. Absurde? Pas si on est amateur de Don DeLillo, le plus grand romancier américain vivant et le plus fiable interprète de la psyché nationale de la fin du 20e siècle et du début du 21e. En 1991, DeLillo a sorti Mao 2, dans lequel il annonce avec une perspicacité extraordinaire, citation, que l'avenir appartient à la foule. Fin de citation. Son analyse était basée sur la réinvention fictionnelle d'un mariage de masse sous l'égide de l'Église de l'unification de Sun Myung-moon, comme celui de 1982 au Madison Square Garden, où 2000 couples s'étaient épousés avec les bénédictions du maître coréen. Certes, les énormes rassemblements étaient déjà bien établis en Amérique avec les festivals rock des années 1960, comme Woodstock, ainsi que certaines gigantesques convocations religieuses, comme la croisade chrétienne évangélique de Billy Graham, qui, en juillet 1957, au Yankee Stadium, avait convaincu 100 000 personnes de venir écouter son sermon. Ce genre de réunion peut, dans une certaine mesure, être qualifié de culte. Beaucoup de participants cherchaient chez ces personnages, réputés pour être branchés sur des rythmes célestes dépassant ceux du quotidien, des réponses qui soulageraient l'aliénation et le vide spirituel d'une Amérique ultra-commercialisée et accablée par la violence politique et guerrière. Les réponses venant aussi bien ici de la musique de Jimi Hendrix que du catéchisme de Billy Graham. DeLillo, sans le savoir, avait anticipé des foules numériques inimaginables à l'époque. L'avènement d'Internet comme place publique mondialisée a transformé la société américaine en vaste colisée de pouces levés et de pouces baissés. Plus de 400 000 personnes ont assisté au concert de Woodstock, environ 350 000 au ralliement de Hitler dans le champ Zeppelin à Nuremberg. Aujourd'hui, Donald Trump, à la tête du culte MAGA, peut se vanter d'avoir plus de 43 millions d'adeptes sur Instagram. Bad Bunny en a presque 54 millions. Peu importe si Bad Bunny a parlé uniquement en espagnol à Santa Clara devant seulement 71 000 spectateurs, son audience télévisuelle a frôlé les 128 millions et son spectacle a généré plus de 4 milliards de visites sur Internet. Pas surprenant que le lendemain, Le Monde ait publié en une la photo de la star latino debout sur le toit d'un pick-up Ford classique de 1970, le bras gauche tendu vers le ciel, un peu comme j'imagine Jésus-Christ lors de sa seconde venue au monde, ou Moïse recevant les 10 commandements. Sous lui, une vingtaine de danseurs contorsionnés, leurs visages gémissants et tordus, évoquaient une évidente adoration du Messie, adoration qui aurait aussi pu suggérer une vénération du veau d'or. C'est cette image qui a tué dans l'œuf mon idée d'une révolution anti-Trump instiguée par une célébrité de la culture internationale. Je concède qu'il y avait du contenu politique dans la performance de Bad Bunny. Des amis éveillés m'ont signalé l'emploi du drapeau d'un Porto Rico indépendant plutôt que son actuel drapeau territorial. Sa déclaration « Dieu bénit l'Amérique », suivie par l'énonciation de chaque nation et région dans l'hémisphère, les États-Unis en étant les 24e, a également suscité l'approbation des copains anti-Trump. Cependant, le spectacle de Bad Bunny s'est montré tellement vulgaire et sexualisé que son « message », entre guillemets, s'est terminé sur une note nulle. Bizarrement traité de « chant viril » par Le Monde, Titi Me Pregunto m'a plutôt révélé le côté enfantin et banal de Bad Bunny, celle de Barcelone qui est venue en avion, et dit que j'ai un pénis d'enfer, etc. À vrai dire, ces paroles auraient plu à Trump, ce soi-disant tombeur, si le président comprenait l'espagnol. Le Messie latino a-t-il voulu nous dire qu'il faut rendre à César ce qui est à César? Bad Bunny serait-il donc contre-révolutionnaire? John MacArthur nous laisse sur cette question. À nous d'y trouver la réponse de ce texte qu'il a titré « Bad Bunny contre-révolutionnaire? » Point d'interrogation, publié dans Le Devoir du 2 mars 2026.